DW. Économie et développement.
Le Sénégal, pays de pêche par tradition, voit désormais son littoral convoité par une autre richesse, le pétrole et le gaz. Entre espoir économique et inquiétude écologique, la cohabitation entre pêche artisanale et industrie extractive soulève des questions brûlantes. On en parle dans la seconde partie de ce magazine. Mais cap d'abord sur l'énergie. Le débat s'intensifie. L'Afrique doit-elle parier sur le nucléaire ou miser résolument sur les énergies renouvelables? Un dilemme stratégique à l'heure où la demande énergétique du continent pourrait tripler d'ici 2050, portée par une croissance démographique et urbaine fulgurante. D'un côté, le nucléaire séduit. Il produit une électricité stable, massive, sans carbone, et des pays comme l'Égypte et l'Afrique du Sud accélèrent leur programme, bientôt rejoints par le Nigeria, le Maroc, le Ghana ou encore le Kenya. Mais cette technologie reste onéreuse et lente. Plusieurs milliards de dollars par centrale, des délais de construction de 10 à 20 ans et un accès complexe au financement. De l'autre côté, les énergies renouvelables, solaire, éolien, explosent. Les coûts ont chuté de 90% pour le solaire et de 70% pour l'éolien en 10 ans. Elles se déploient plus vite, attirent des investissements privés et s'adaptent mieux aux réalités africaines. Mais pose encore la question de l'intermittence et de la stabilité des réseaux. Pour nourrir la réflexion, nous recevons aujourd'hui Tony Tiyo, l'ingénieur camerouno-britannique devenu entrepreneur. Il est le fondateur de Renewables in Africa, société d'ingénierie et plateforme dédiée à la promotion des énergies propres sur le continent. Tony Tiyo, bonjour.
Bonjour et merci à la Deutsche Welle pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à ce programme.
En tant que spécialiste des énergies propres, comment analysez-vous aujourd'hui l'enthousiasme croissant de plusieurs pays africains pour le nucléaire? Est-ce un pari réaliste selon vous?
Alors, est-ce un pari réaliste sur le long terme? Peut-être. Sur le court terme, je ne pense pas. Et l'enthousiasme récent pour le nucléaire en Afrique, pour moi, repose sur un malentendu qui pourrait être très délicat. Celui de croire que la technologie est une solution rapide et abordable pour nos besoins énergétiques. En fait, c'est le contraire. Ça pourrait même être un pari économique assez dangereux. Parce que là, on parle des coûts qui sont assez énormes. Donc, on pense à 6 000 à 10 000 dollars le kilowatt pour une centrale nucléaire, contre 800 dollars pour le solaire. Et même les petits réacteurs modulaires SMR sont présentés comme une alternative, ont vu leurs coûts exploser. Donc, il faut prendre ça en compte. Je parlerai aussi des dettes publiques. Parce que la centrale de El Daba, par exemple, en Égypte, qui est en train d'être construite, 30 milliards, je pense, elles pèsent lourdement déjà sur des économies qui sont assez fragiles. J'ajouterai à ça aussi des délais incompatibles avec l'urgence africaine. Ça prend 10 à 15 ans de construction en moyenne pour construire une centrale nucléaire. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a? 700 millions d'Africains qui n'ont toujours pas d'électricité. Il ne faudrait pas non plus ignorer les risques qui y sont associés. L'eau. Le nucléaire consomme entre 2000 litres d'eau par mégawatt-heure. C'est un peu une aberration dans un continent qui est frappé par des sécheresses récurrentes. Et la sécurité. Parce qu'en Afrique, pour le moment, à part l'Afrique du Sud, on n'a pas d'experts en sûreté nucléaire. Donc si jamais on avait un accident, ce qu'on ne souhaite clairement pas, ben, ça pourrait être ingérable. On pense peut-être aux conséquences de Fukushima, 200 milliards de dollars pour les dégâts. Donc il faudrait prendre tout ça en compte quand on fait les comparaisons.
Okay. Vous êtes à la tête d'une plateforme qui milite activement pour l'accès universel à l'électricité en Afrique via les énergies renouvelables. Quels sont, selon vous, les avantages clés des renouvelables face au nucléaire dans le contexte africain?
Alors, il y a trois avantages majeurs pour moi des énergies renouvelables vis-à-vis du nucléaire. Mais là, je vais plus me focaliser sur l'énergie solaire. Alors, je parlerai déjà du coût. Alors, l'énergie solaire, c'est environ, quand on parle du coût, c'est environ 4 centimes le kilowattheure. Et comparé à quoi? 15 centimes le kilowattheure pour le nucléaire. Donc, au niveau des coûts, on est déjà très, très, très compétitif. C'est déjà plus compétitif que le nucléaire et certainement aussi compétitif que les énergies fossiles, sinon beaucoup plus avantageux. Il ne faudrait pas aussi oublier les délais. Parce qu'une centrale solaire, elle se construit en 1-2 ans, elle est opérationnelle. Le nucléaire, il faut attendre entre 10 et 15 ans. Et ça, c'est quand il n'y a pas de délai, comme je disais tout à l'heure. Okay? Donc, c'est très important à prendre en compte. Et sans oublier aussi l'accès. Pourquoi est-ce que je parle de l'accès? Parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que 80% de la population africaine vit dans les zones rurales. Alors, si vous faites le calcul, ça fait environ 1 milliard de personnes qu'il faut électrifier. On ne peut pas trop le faire avec le nucléaire, du moins pas d'aujourd'hui. Alors, le solaire, avec ça, vous pouvez connecter le solaire en réseau, en mini-réseau, en réseau. Vous pouvez électrifier les zones rurales dès aujourd'hui, sans attendre des méga-projets qui sont centralisés. Vous savez, c'est très important de prendre ce fait en compte, parce que avec plus d'un milliard de personnes qu'il faut électrifier et un milliard qu'on va rajouter entre maintenant et 2050, il ne faudrait pas transformer cette génération de jeunes personnes en génération sacrifiée. Elle doit aussi avoir accès à l'électricité.
Tony Tiou, on observe une baisse spectaculaire des coûts de production de l'énergie solaire et éolienne. Pourtant, ces solutions peinent à s'imposer à grande échelle. Qu'est-ce qui bloque encore leur déploiement massif sur le continent ?
Le blocage, il n'est ni technologique ni économique. Si on regarde le coût des panneaux solaires, par exemple, ils ont chuté de plus de 89% sur les 10 dernières années. Et dans l'éolien, on parle de 70%. On a plutôt un blocage politique, mais aussi financier. Alors, je m'explique. Les énergies renouvelables, à mon sens, font face à une concurrence presque déloyale. Parce qu'au niveau des subventions aux énergies fossiles, d'après la Banque mondiale, elles reçoivent 5 fois plus de subventions que les énergies renouvelables. Et ça, ça a un impact. Okay? Donc ça, c'est clairement un obstacle financier que je vois. Et aussi les réseaux vétustes. Parce que pour pouvoir absorber l'énergie éolienne et aussi l'énergie solaire, il y a un besoin de faire des upgrades sur le réseau, ce qui n'est pas toujours fait. Je parle des réseaux des pays africains. Donc ça, c'est important pour pouvoir absorber cette énergie renouvelable. Mais il est important de faire noter que ça, c'est un inconvénient qui est lié beaucoup plus au solaire et à l'éolien. Quand on parle, par exemple, de l'hydro ou bien d'énergie géothermique, elles n'ont pas cet inconvénient. Okay, c'est important de mentionner ça. L'accès au financement. Bon, les banques locales, en général, prêtent avec des taux assez énorme, on parle de 10% ou de 30% contre 2% peut-être en Europe. Alors, donc ça clairement, ça fait une différence. La solution, ce serait avoir des politiques claires et aussi des incitations pour le secteur privé à venir investir aussi. Inciter aussi les acteurs majeurs locaux de pouvoir se tourner vers le secteur.
Des pays comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud ont déjà lancé des projets nucléaires. Faut-il selon vous les voir comme des pionniers visionnaires ou comme des États prenant un risque financier et technologique démesuré?
Alors, l'Égypte et l'Afrique du Sud sont dans une position bien particulière. Tout simplement parce que ce sont les deux plus grosses puissances économiques du continent. Il faut faire remarquer que l'Afrique du Sud a un taux d'électrification de près de 87% et l'Égypte de 100%. Donc aussi bien l'une comme l'autre a, si non pas complètement résolu ce problème d'électrification, est prêt d'y arriver pour l'Afrique du Sud. Le danger, ce serait d'avoir tous les autres pays qui sont dans des taux d'électrification assez bas qui penseraient directement à passer au nucléaire. Okay? Donc, on ne parle pas exactement de la même problématique ici. C'est assez différent. À ce stade de leur histoire, ces deux pays, l'Égypte et l'Afrique du Sud, pourraient se permettre maintenant de penser au nucléaire. Parce que j'ai dit, sur le long terme, oui, ça pourrait être une solution. Sur le court terme, clairement pas.
Vous êtes ingénieur de formation et vous avez évolué dans l'industrie de l'énergie en Europe et en Afrique. Avec votre double regard, diriez-vous que les infrastructures africaines sont prêtes pour accueillir une filière nucléaire viable ?
Alors, à mon humble avis, l'Afrique n'est pas prête pour recevoir le nucléaire aujourd'hui, mais elle peut être prête pour recevoir le nucléaire demain, si on prend les bonnes mesures pour pouvoir y arriver. Parce que du peu que je sache, pour pouvoir construire une filière nucléaire viable, c'est important déjà d'avoir un cadre légal et juridique qu'il faut construire. Et ça, ça prend un certain nombre d'années, une bonne dizaine d'années au moins. L'Afrique du Sud et l'Égypte se sont embarqués déjà dans cette voie. Très bien, elle pourrait servir de modèle pour les autres. Mais comme je dis, ça prend un certain temps. Je parle aussi des infrastructures.
Beaucoup soulignent que le nucléaire attire peu d'investissements privés, contrairement aux renouvelables. Est-ce un argument déterminant dans le choix stratégique que l'Afrique doit faire?
Bon, c'est l'argument massue, hein. Si on regarde en 2023, les investissements sur les énergies renouvelables ont attiré près de 12 milliards de dollars en Afrique, contre combien pour le nucléaire? Zéro. Et quelle en est la raison? Tout simplement parce que les investisseurs fuient les risques, ils fuient les délais et surtout mais aussi les politiques. Même au sein de l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique, ces deux régions subventionnent le nucléaire à coût de milliards publics et pas privés. L'Afrique, pour moi, n'a pas ce luxe. Notre choix est clair. Nous devons miser sur ce qui marche maintenant, pas demain, parce que nous devons apporter de l'électricité à 700 millions d'Africains et nous devons nous assurer que nous apportons aussi de l'électricité à toute cette population, 80% qui vit dans les zones rurales. Donc, nous devons miser sur ce qui marche maintenant, c'est les énergies renouvelables. C'est ce que je pense en mon avis.
Merci à vous, Tony Tiyou, pour vos éclairages.
C'est moi qui vous remercie.
DW.
La seconde partie de ce magazine nous conduit au pays de la Teranga. De juin à novembre, c'est la saison haute pour la pêche artisanale au Sénégal. Pourtant, les ressources halieutiques se raréfient, alertent les acteurs du secteur. En plus de la surpêche et du changement climatique, les pêcheurs doivent aujourd'hui composer avec les effets des industries extractives. Et pourtant, cette pêche artisanale, véritable vivier d'emploi, contribue à près de 3,2% du PIB du Sénégal. Reportage à Dakar, Robert Adé.
Pays de pêche par tradition, le Sénégal voit aujourd'hui s'ajouter aux défis climatiques et à la surpêche l'impact croissant des activités pétrolières et gazières. Un sujet sur lequel alerte Bassirou Diarra, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste de la lutte contre la pêche illicite et des métiers liés à la pêche artisanale.
Des puits de pétrole ou des puits de gaz, il y a une garantie à 100% qu'il n'y a pas de fuite et de pollution. Et cette pollution peut être invisible à l'œil nu, mais au niveau de la chaîne alimentaire, depuis le micro jusqu'au macro, peut apporter ce qu'on appelle des perturbations. Et ces perturbations peuvent affecter aussi les grands poissons, notamment les poissons qui sont ciblés par la pêche artisanale.
Une situation qui ne surprend pas Ibrahim Amar, coordonnateur du réseau national des conseils locaux de la pêche artisanale et vice-président de l'aire marine protégée de Gorée. Il appelle à une prise en compte effective des réalités vécues par les communautés de pêcheurs.
Cet espace qu'ils ont utilisé, la couleur de l'eau va sûrement changer. Il y a aussi la pollution sonore avec le bruit des machines. Il y a beaucoup de pollution. Secondo, toutes ces exploitations pétrole et gaz, on l'a retrouvé sur la zone pêche artisanale. À un kilomètre de ces plateformes, c'est interdit de pêcher. Ça, c'est un impact. Mon souhait, c'est de penser aux pêcheurs, de prendre en charge ces pêcheurs. Parce qu'il n'y a plus de poissons. On parle de rareté de la ressource. Donc les pêcheurs vont aller partout pour chercher ces poissons. Même si ça se trouve au fond de ces plateformes, ils vont aller là-bas pour les chercher. Et ça, c'est un danger.
La pêche artisanale est majoritairement pratiquée par les communautés côtières. Elle représente un pilier économique avec plus de 3% de contribution au PIB national, rappelle encore Bassirou Diarra, qui insiste sur la nécessité de transparence dans la gestion aussi bien des ressources halieutiques que des industries extractives.
Que ce soit dans les industries extractives, mais que ce soit dans le niveau de la pêche, qu'on travaille à mettre de la transparence pour savoir qui fait quoi, où il le fait, quand il le fait, qui profite aussi, et mettre tout sur la table et pour voir les gaps. À partir du moment où on peut voir les gaps, on peut poser des solutions. Est-ce que l'argent permet de domicilier les valeurs ajoutées au niveau des communautés qui sont les plus impactées? Parce qu'on dit que les ressources appartiennent à l'État. C'est un patrimoine national.
Mais pour d'autres experts, comme l'économiste Seydina Oumar Sey, l'impact environnemental ne doit pas occulter le potentiel économique des hydrocarbures. Selon lui, ces ressources peuvent jouer un rôle stratégique dans la transformation économique du pays.
Il faut expliquer que le secteur des hydrocarbures a un potentiel transformateur. En effet, les découvertes gazières et pétrolières impactent forcément sur le PIB parce que selon la Banque mondiale, encore une fois, la production gazière pourrait ajouter 1 à 2 points de croissance dès 2025. Les recettes publiques, en même temps aussi, FMI estime que voilà, cela pourrait générer 1,5 milliard de dollars par an à partir de 2025.
D'ailleurs, les dernières perspectives économiques du FMI placent le Sénégal parmi les champions de la croissance sur le continent avec un taux attendu de 8,4% en 2025. Mais face à l'essor des industries extractives, il est crucial de ne pas négliger la pêche artisanale qui reste une source majeure d'emplois et de revenus. Plus de 50 000 emplois directs et plus de 500 000 emplois indirects, selon les chiffres avancés par les professionnels du secteur. Robert Adé, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Merci Robert pour ce sujet sur l'importance des industries extractives sur la pêche artisanale au Sénégal. Ce reportage vient mettre un terme à ce numéro d'économie et développement que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez d'ailleurs le réécouter en podcast sur notre site www.dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de votre magazine. D'ici là, prenez bien soin de vous.
ngay wo te kay di koy deugal woma se seri boy ay